Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour bien débuter la semaine sur RFI Radio Foot. 50 minutes pour faire tourner la parole comme certains font tourner le ballon. À ce jeu-là, le Barça est réputé inimitable, le géant catalan qui est bien de retour, le mercato estival dépensier et polémique porte ses fruits, c'est indéniable, mais il n'y a pas besoin de jeter l'argent par les fenêtres pour faire rêver des petits clubs. Comme on dit, peuvent aussi réaliser des miracles grâce notamment à leurs pépites africaines, le Lens de Seko Fofana ou le Lorient de Dango Ouattara. Nouveaux joyaux burkinabés sont les tubes de l'été en Ligue 1. Et qui dit tube de l'été dit piste de danse, dance floor en anglais. Et qui dit dance floor dit... Hervé Penaud.
Bonjour Hervé. Oh, ça me fait plaisir. Quel accueil, quel plaisir d'être avec vous. J'adore la musique et j'adore danser évidemment.
À défaut du studio 54 qui était le temple du disco à New York, il est venu ambiancer le studio 41 d'ici les Moulineaux. Bon, on a les studios qu'on mérite. Vous êtes venu avec vos amis, deux ambianceurs également, Jean-Philippe Bouchard. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et Dominique Cédrac. Bonjour Dominique.
Bonjour, bonjour. Hervé est arrivé en dansant, en moonwalk.
Exactement. Il marche en rythme, ouais, il débat en rythme.
Le c'est-à-dire moonwalk, si la musique. C'est ma spécialité, même pour les arguments.
Pas mal celle-là. Vous êtes, messieurs, des ambianceurs, des danseurs, des baroudeurs également. Vous savez que plus les années passent et plus il faut être prêt à voyager, voir du pays lors des grandes compétitions internationales, puisque les projets de candidature abondent, et notamment pour la Coupe du Monde 2030. Et le dernier en date de ces projets de co-candidature, de co-organisation, est le plus surprenant. Trois pays, trois continents, Grèce, Égypte, Arabie Saoudite, de l'Acropole à la Mecque, en passant par le Sphinx et les pyramides. Ça fait rêver sur le papier, mais est-ce que vous y croyez? Réponse en fin d'émission. Radio Foot, pensé par un génie, David Finzel, réalisé par un maestro, Laurent Salerno, et habituellement présenté par une patronne, Annie Gasnier. C'est parti.
Les bam 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 bam. Gol del Barça, gol de Robert Lewandowski.
De Robertinho, Lewandowski. La 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 la.
Cerrando victoria y goleada al Cádiz con Ousmane Dembélé que pone el Cádiz 0 Barça 4.
4-0 donc pour le Barça, le succès large sur le terrain de Cádiz. De Jong, Lewandowski, Fati, Dembélé sont les buteurs.
Il est catalan, il était au sommet il y a quelques années avant d'être humilié, critiqué, avant de se retrouver au bord du gouffre. Non, je ne vous parle pas de Manuel Valls, mais bien du Barça, le FC Barcelone. Les Blaugrana, très endettés, mais qui ont beaucoup dépensé cet été avec les résultats qui suivent. 4 victoires et 1 nul en Liga, notamment depuis le début de la saison. Dernier succès en date, 4-0 à Cadix ce week-end. Bonjour François-David.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Vous n'êtes toujours pas Manuel Valls, vous êtes néanmoins un catalan d'adoption et vous êtes constant dans vos performances, correspondant de Radio Foot au pied de la Sagrada Familia, au pied du Camp Nou également à Barcelone. Le succès des Blaugrana à Cadix, 4-0, De Jong, Ansu Fati, Dembélé et puis bien sûr l'incontournable Lewandowski parmi les buteurs. Vous êtes un journaliste objectif, mais un journaliste heureux, car c'est le retour du jeu, clairement, à Barcelone, au sein du FC Barcelone.
Bah, avant tout, on peut être heureux par rapport à le retour de la grande rivalité avec le Real Madrid. C'est vrai que les deux dernières années, on s'était un petit peu ennuyé. Hein, on savait que le Real Madrid allait gagner, même si l'Atlético avait été champion il y a 2 ans. Mais bon, de manière globale, il manquait le Barça. Maintenant, le Barça, a priori, sur ce qu'on voit depuis le début de saison, est vraiment revenu dans la course. Et on peut qu'apprécier le fait que, il y a des stars qui reviennent en Liga. On avait perdu ces quelques dernières années avec Neymar, Cristiano Ronaldo. Là est venu Robert Lewandowski, la nouvelle grande idole du FC Barcelone. 6 buts en 5 matchs en Liga. Et effectivement, on voit un Barça depuis le début du championnat qui est complètement différent, complètement transformé, à ce qu'on l'avait laissé. Alors, je ne dis pas les derniers mois, parce qu'on sentait vraiment une évolution hein, quand même les dernières semaines, les derniers mois avec Xavi sur le banc de touche, qui avait remplacé Ronald Koeman, l'ancien entraîneur du Barça. Xavi, un ancien grand joueur de la maison, évidemment, symbole un peu du beau jeu du Barça, et qui avait su inculquer d'autres choses à ce groupe-là. Là, on voit que ça commence à prendre forme, vraiment. Le Barça, la meilleure défense de la Liga, avec un seul but marqué un seul but encaissé en 5 matchs, 15 buts marqués. Donc la balance est largement excédentaire et on voit vraiment toute la différence d'avoir un grand attaquant, un grand avant-centre comme est Robert Lewandowski. C'est incroyable, Lewandowski, pour ceux qui n'avaient pas trop l'habitude de le voir en Bundesliga, autre chose que la Ligue des Champions. C'est un attaquant phénoménal, il attire tous les ballons, Robert Lewandowski. Il y a un centre, on est à peu près sûr que Lewandowski va la prendre ou faire une déviation ou va tirer, et avec une grande capacité en plus de leadership. C'est ce qui manquait à ce Barça-là l'an passé, et à la veille Hugo, peut-être une grande revanche, peut-être face au Bayern Munich, la grande bête noire du Barça ces dernières années. Eh ben, les derniers signaux sont extrêmement positifs.
Oui, le Bayern qui est aussi l'ancien club de Lewandowski et qui faisait partie des bourreaux du Barça ces dernières années lorsque le Barça affrontait le géant bavarois. Donc 20 buts inscrits à toute compétition confondue pour 2 encaissés si on compte également la Ligue des Champions pour le Barça. Et puis pour terminer sur les chiffres non plus du Barça mais de Lewandowski en particulier, 9 réalisations en 6 sorties. On va peut-être s'arrêter d'abord sur le Polonais hein, qui est clairement le visage Hervé Penaud de ce Barça retrouvé. Vous l'attendiez à un tel niveau? Il est plutôt jeune, Lewandowski. On connaissait sa valeur évidemment, mais il faut s'adapter. Le Barça, c'est un club un peu particulier. Et là, c'est vrai que c'est le transfert de l'été hein, en termes d'impact, tout championnat européen confondu. On pourrait presque le présenter comme ça.
Alors, est-ce que c'est l'impact? Oh, non, il y a Haaland aussi quand même qui va à Manchester City. C'est aussi une grosse pioche pour City.
Mais ça, c'était une équipe qui tournait déjà.
Ce qui est sûr, ouais. Mais ça commençait à retourner Xavi, hein, parce que le vrai renfort depuis quelques mois, j'allais dire, c'est lui. Mais on se pose toujours la question de savoir si un joueur comme Lewandowski, qui est plutôt un joueur de surface, qui était habitué, ce qui était faux d'ailleurs, hein, parce que l'image simplement d'un joueur de surface, c'était une erreur. Simplement, on pensait que c'était quelqu'un d'ultra finisseur dans une équipe super dominatrice comme le Bayern, et surtout qui aurait peut-être un peu de mal, ou en tout cas qui prendrait son temps pour se mettre dans le rythme d'un style Xavi qui est beaucoup plus fait de mouvement, avec de la vitesse sur les côtés aussi, comme au Bayern, mais surtout pour lui de trouver un peu les espaces dans les défenses espagnoles. Puis finalement, ça match tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps d'adaptation. Et ça, c'est plutôt rare, surtout pour des attaquants de pointe. Alors, bien sûr, je reparlais d'Haaland, mis à part. Mais il faut toujours un petit peu de temps déjà pour découvrir de nouveaux partenaires, des nouveaux adversaires. Je me souviens, Deschamps disait toujours, le plus difficile pour créer une équipe, ce sont les attaquants. Parce qu'autant une défense, on peut la mettre en place assez vite. Mais un jeu offensif, ça prend toujours un minimum de temps. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain et les 3 fantastiques l'année dernière. Mais lui, on a l'impression qu'il a toujours été fait pour le Barça, donc ça c'est assez incroyable.
Mais
toujours
est-il que il y avait quand même assez peu de doutes.
Non, mais peu de doutes qui savait d'entrer dans le rythme.
C'est le troisième meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions. On peut pas être juste derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui sont évidemment de phénomènes, de extraterrestres. On peut pas être le premier homme normal après les deux génies donc de toute l'histoire, hein, pas en activité, de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Et ne pas avoir un talent incommensurable, incroyable. Et Robert Lewandowski est un des
c'est
meilleurs...
C'est pas le talent qui était en cause.
Ouais,
hein.
Moi,
c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Il devrait être ballon d'or.
Il ne le sera pas.
Il ne le sera malheureusement sans doute jamais. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas s'adapter à n'importe quelle équipe, en fait. Je ne vois pas quel est l'argument qui ferait qu'un des meilleurs joueurs du monde
par
pourrait
exemple,
pas s'adapter.
Les difficultés d'adaptation de Messi quand il vient au PSG,
absolument.
Par exemple. Le talent de Messi n'est pas en cause, ça va en état de forme peut-être, mais en tout cas, ce qui est intéressant l'arrivée de Lewandowski au Barça, c'est que le Barça aussi, Xavi a mis un petit peu de l'eau dans son vin par rapport à ses convictions. C'est que le Barça pratique aussi un jeu de possession, certes, mais aussi parfois de plus en plus direct, fait de ruptures, peut-être plus qu'il y avait du temps où de Guardiola, où il était son joueur clé. Il essaye, et notamment avec Dembélé, on parlera de Dembélé.
Bien sûr.
Qui met de la vitesse là-dedans et de la profondeur. Et l'alchimie est en train de prendre. Là, ça, c'est intéressant. Mais le Barça n'a pas été dans la religion quoi, de son jeu. Là, ils ont profité du talent de Lewandowski, qui est effectivement quand même un joueur de surface, on peut le dire.
Mais il y avait déjà un peu cette rupture lors des derniers mois quand Aubameyang était là. Par exemple, François David, c'est vrai qu'on peut parler de l'architecte hein, de la reconstruction du Barça, Xavi, donc, qu'on voyait comme le disciple absolu de Guardiola. Et ce n'est pas forcément le cas. Il a ses propres convictions. Il imprime sa propre marque sur ce club et son jeu, François David.
Oui, bah, il a plusieurs influences. Évidemment, on pense tout de suite à Guardiola parce que c'est l'héritage naturel, comme Johan Cruyff peut-être était par rapport à Pep Guardiola. Là, c'est Xavi. Maintenant, Xavi a d'autres aspirations aussi. Je pense à Luis Aragonés, l'entraîneur de la sélection espagnole, qui était vraiment un maître pour lui. Ou alors à Luis Enrique, il a quand même fait un triplé Ligue des Champions, Liga et Coupe d'Espagne en 2015 avec Neymar, avec Luis Suarez, avec Messi. Il jouait encore. Il a été vraiment aussi inspiré par ce qu'a fait Luis Enrique, qui lui, je crois que c'était c'est Jean-Christophe qui en parlait, qui utilisait aussi un jeu peut-être un peu plus direct, avec des contre-attaques, chose qu'on voyait pratiquement jamais avec Pep Guardiola. Aussi, je pense que Xavi a la crédibilité, a la légitimité par rapport à la confiance aussi que peut leur donner les supporters, ce que n'avait pas forcément Ronald Koeman, même si ça avait été une légende, Ronald Koeman, mais c'était déjà un joueur peut-être ou un homme d'une ancienne génération, 1992, la victoire à Wembley, la première Ligue des Champions du Barça, où il marque le but décisif, bah, ça ne parlait peut-être pas non plus trop à ceux qui étaient nés en 2000, 2005, 2006. Donc là, Xavi, ils l'ont vu jouer. Ils savent aussi que c'était un grand joueur. Et les joueurs aussi se retrouvent en Xavi, ils leur parlent directement. Il a quand même mis sur le banc des cadres comme Gérard Piqué et Jordi Alba, qui étaient intouchables avant. Xavi, même s'il a joué avec eux, il les a mis sur le banc sans aucun complexe. Et ce sont des joueurs beaucoup plus durs, beaucoup plus frais, disposés, qui peuvent être plus enclins à des sacrifices. Je pense au jeune Baldé à gauche, qui a remplacé totalement Jordi Alba depuis quelques matchs. Ou alors Eric Garcia, qui est international espagnol, qui a pris la place de Gérard Piqué. Globalement, je pense que la défense aussi est beaucoup plus forte au Barça, beaucoup plus agressive. Arojo, Jules Koundé, Baldé, on en a parlé, Eric Garcia. Ils peuvent aussi compter sur un Marc-André Ter Stegen, qui est revenu le Ter Stegen que l'on connaissait quand il était pratiquement intouchable, où il était vraiment le concurrent de Manuel Neuer. Ce serait intéressant d'ailleurs demain de voir le duel à distance entre les deux gardiens allemands. Mais tout ça, je suis d'accord avec vous, c'est Xavi qui a imprimé cet état d'esprit depuis quelques mois. Il s'était remonté quand même de la 7e place ou 8e place à la 2e place l'an passé, grâce à une phase retour absolument incroyable.
Voilà, donc il faut savoir mettre de côté les vieux grognards et notamment... Pardon.
Je m'étrangle en
donnant la parole justement à un grognard de Radio Foot, mon cher Hervé Penaud, et on donnera la parole également à Jean-Christophe Bouchard qui vient d'être renommé par François David dans quelques instants.
Je voulais répondre à cette attaque ignoble, il n'y a pas d'autre mot de Dominique qui a osé dire que, parce que d'une certaine manière je m'attaquais moi-même à Lewandowski sur sa capacité d'adaptation. Alors je veux répondre que jamais je n'ai douté de Lewandowski à Barcelone. Simplement, c'est sur le temps d'adaptation. Voilà, c'était la seule interrogation qu'on pouvait avoir. Bon, là, il faut dire qu'ils ne jouaient pas contre une très belle équipe avec Cadix hier.
C'est ça, c'est pas que Cadix. Voilà.
Il y avait un jeu de mots. La belle de Cadix.
Oui, non, mais joli.
J'ai mis une seconde.
Mais même les joueurs qui obéissent à Xavi ont peut-être la référence. Même les jeunes ont peut-être la
ref, comme on dit.
J'espère, la ref. Vous parlez aux jeunes également, Dominique Sévrac. Justement, en parlant de ces jeunes joueurs, il y avait des. Vous parliez de Dembélé, Jean-Philippe Bouchard. Il y avait pas mal de joueurs, Mounsoufati, Dembélé, enclins aux blessures, qui avaient du mal à trouver de la continuité. Là, ils ont marqué
s'il faut ressortir trois facteurs, dernier. C'est un Xavi, peut-être deux Lewandowski et trois Dembélé. Dembélé, le fait que maintenant il ne se blesse plus et le niveau qu'il atteint, parce que pour mettre des buts, il faut aussi des passeurs. Il offre caviar sur caviar quand même à Lewandowski. Il a atteint un niveau qui nous donne une gourmandise en équipe de France. On a envie de le revoir. On se dit qu'il y a la Coupe du Monde bientôt. Donc voilà, moi on sait que c'est un des plus grands talents au monde, Dembélé, et qui s'est gâché dans des blessures, dans des hygiènes de vie parfois.
Des retards à l'entraînement qui étaient comptabilisés
par
la presse.
Il est devenu un footballeur professionnel. Bah, c'est la meilleure recrue du FC Barcelone, quoi.
Jean-Philippe Bouchard.
Oui, puis alors après, juste pour tempérer un peu cet enthousiasme général.
C'est un pisse froid, de toute façon, je l'avais dit. Hein. Non, mais
c'est un peu l'intello.
Surtout Jean-Christophe. Surtout Jean-Christophe.
On l'a vu écrire des livres, c'est vous dire si c'est pas le plus marrant.
On reste quand même. Alors certes, on est dans la continuité de la saison dernière, plus Lewandowski, plus Dembélé, ça je suis totalement d'accord. Après, il n'y a pas eu des adversaires colossaux non plus jusqu'à présent. Et sur le match contre Cadix, il y a 0-0 à la pause, si je ne m'abuse. Ouais. 75% de possession de balle pour le Barça, ok, mais il faut quand même. Ça ne craque pas tout de suite. Donc. Peut-être que des adversaires plus rigoureux seront peut-être plus difficiles à bouger.
Non, ce qu'on célèbre ici, c'est le retour au premier plan du FC Barcelone. Oui. Moi, je ne dis pas qu'ils vont être champions d'Europe, ou... mais c'est le fait qu'ils reviennent alors qu'ils avaient...
Donc, il sous-entend quand même.
Ils avaient quand même eu un trou.
Et ils sont deuxièmes derrière le, bah voilà. Le Real qui, pour l'instant, réussit le sans faute en Liga, 5 matchs,
c'est
5 victoires.
Quand il y a les grands clubs sont là, quoi.
Premier test pour le Barça. Alors, si je vous suis, ce sera demain sur le terrain du Bayern Munich. Ah, pas mal de revanches à prendre pour le club catalan face au géant bavard. Et notamment par rapport à ce qui s'était passé en 2020, en août 2020.
Picó la pelota, le quedó a Coutinho. Alors, no puede ser. No puede ser.
Et ça continue, ils sont inarrêtables. Et de 8, 8-2. On n'a plus de mots, on est au-delà de l'humiliation.
Ouais, nos points d'essai, hein, disent vos collègues espagnols, François David. Il y a eu un 8-2 donc en demi-finale de la Ligue des Champions 2020. L'an passé, en phase de poule, c'est 2x3-0, et notamment au Camp Nou. Et là, comment on aborde ce choc face au Bayern? Est-ce que maintenant, on a l'impression qu'on peut les regarder dans les yeux un an après ces Bavarois? Quel est le sentiment qui prédomine en Catalogne, François David?
Bah surtout l'envie de d'en découdre et de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Alors c'est Jean-Philippe Bouchard qui le disait très très bien. C'est vrai que on savait pas trop où est-ce qu'on était par rapport au début de saison. Ils ont quand même battu chez eux la Real Sociedad, qui a battu quand même il y a quelques jours Manchester United en Ligue Europa. Donc c'est pas rien, c'est une belle équipe. Mais bon, ils ont pas affronté de monde Séville, ils ont gagné 3-0 à l'extérieur. C'était une équipe en décomposition. Donc là, ça va être effectivement le premier grand test face à un monstre d'Europe. Le retour de Lewandowski, ils vont pas lui faire de cadeau en Allemagne. Là, j'étais en train de lire deux trois choses là sur. Ils sont arrivés déjà à Munich. Les supporters l'attendent, les joueurs l'attendent, ses anciens adversaires l'attendent. Et ce sera pas forcément une partie de plaisir pour Lewandowski, mais ce sera bien effectivement de voir où est-ce qu'on est Dembélé. C'est une défense renforcée, voir ce que Rafinha a vraiment dans le ventre, qu'on a eu quelques bribes quand même de son immense talent à Rafinha. Ce sera intéressant de le voir, et de voir si cette défense peut tenir, et de voir si le Barça, alors sans peut-être gagner la Coupe d'Europe comme le disait Dominique, mais au moins de ne pas être ridicule, parce que c'est vraiment ça qui les a marqués l'an passé. C'était de se prendre 2x3-0, comme l'avait dit Hugo, et de chaque sortie européenne ne pas savoir si le Barça allait gagner 1-0, 2-0, ou alors aller s'en prendre 5. Là, c'était vraiment le gros problème. Maintenant, Xavi a vraiment consolidé ça, et on a envie de voir. On a envie de voir vraiment ce que ça vaut, ce qu'ils ont dans le ventre, et ce qu'ils peuvent vraiment aller loin dans cette compétition-là. Et bah, quoi de mieux que d'affronter chez lui en plus un monstre comme le Bayern, qui va pas très très bien d'ailleurs. Le Bayern, et ça aussi, ici à Barcelone, il manque pas de le souligner.
Mais nous le soulignerons, nous en parlerons demain dans Radio Foot avec la Ligue des Champions, évidemment, à l'honneur sur l'antenne de RFI. Un dernier mot, Hervé Penaud.
Un vrai test de résistance, parce que comme l'a dit François, l'important dans une équipe, c'est aussi la défense. Et d'abord la défense, vous construisez déjà une équipe par l'arrière, vous n'allez pas marquer 12 buts à chaque match. Donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre, parce qu'elle n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la saison.
Surtout qu'en Ligue
des Champions, Bayern a des arguments en plus.
Voilà. Donc en Ligue des Champions, ou en Euro ou une Coupe du Monde, tu la gagnes par la défense, par la défense. Et jamais par l'attaque.
L'heure tourne, évidemment, on reviendra sur ce choc Bayern-Barça avec, pourquoi pas, des nouvelles de Franck Kessié, hein, l'Ivoirien qui a rejoint évidemment le Barça cet été. On n'a pas eu le temps d'en parler. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup joué. Pour l'instant, l'Ivoirien, il s'adapte petit à petit en Catalogne. Ça va venir, vous nous promettez, et vous nous teasez quelque part vos prochaines interventions. François David, on vous remercie, on vous libère. À très vite sur l'antenne de RFI, François. Ah.
À très vite, messieurs. À bientôt.
Magnifique, merveilleux, encore une fois. C'est pas un passeur, c'est un régaleur. Monaco, sur coup de pied arrêté, a été plus fort. Lyon s'est peut-être réveillé trop tard.
Merci pour Ouattara.
Kimpembe sur Cardona.
Monsieur Kimpembe, si je fais rentrer le soigneur, vous restez 2 minutes dehors. Levez-vous. C'est fini. Levez-vous. Je vais rajouter. Allez, et hop. Allez, on y va. on y va. Pourquoi j'ai excité? Pourquoi j'ai excité? Allez, allez. Allez-y.
Le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-0 face à Brest et récupère leur place de leader.
Passer de la Liga à la Ligue 1, ce serait un cauchemar pour Javier Tebas. C'est un lundi de plus pour nous dans Radio Foot. La 7e journée du championnat de France s'est achevée hier sur un choc entre deux clubs qui aimeraient bien, à leur échelle, faire le coup du retour, un peu comme le Barça. Monaco-Lyon, succès de la SM 2-1, Badiachil et Maripane, buteurs un peu avant et un peu après l'heure de jeu. Karl Toko Ekambi, notre champion d'Afrique camerounais, pour la réduction de l'écart. Troisième succès de rang pour Monaco après un début de saison raté. Deuxième défaite d'affilée pour l'OL après un début de saison acceptable. Les courbes se croisent donc. On va d'abord parler du vainqueur. Est-ce que ça va mieux à Monaco? Qui veut prendre la parole, qui veut se lancer?
Ça va mieux, c'était un match important pour eux parce qu'on a surtout insisté sur Lyon en fait avant ce match. Hein. L'avant-match, même l'après-match, ça a été dans quelles conditions on va pouvoir poursuivre Peter Bosch cette aventure lyonnaise. Mais l'important, à mon avis, c'était quand même Monaco, hein, parce que Monaco fait un début de saison qui est très très compliqué. Ils ont quand même perdu chez eux contre 3. Ils ont été éliminés de la course en prenant 4. Alors, ils ont beau dire, évidemment, qu'il y avait eu un expulsé, mais toujours est-il que c'est pas suffisant comme argument. Hein, ça reste 3. Après, vous avez eu une élimination en Ligue des Champions, hein, qu'il ne faut pas oublier. Vilaine. Donc, c'était vraiment c'est une équipe qui est sur un fil. Et on ne sait pas vraiment à quoi penser, je trouve,
et
avec cette équipe de...
où ça va basculer. Parce que
même là, même
hier. J'ai lu ce matin que la saison de Monaco démarrait, mais on avait dit ça après son nul à Paris. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 week-ends.
Et derrière, ils en prennent 4.
Et après, voilà. Donc en fait, moi, j'ai vu leur match en Ligue Europa cette semaine contre l'Étoile Rouge. C'était extrêmement poussif.
Mais ils gagnent.
Ils gagnent, oui, quand même. Alors, ils ont un pénalty. Ils mettent un pénalty qu'ils ne méritent pas d'obtenir. Et ils n'en ont pas un à la fin qu'ils méritent d'obtenir. Bon. Et donc, c'est deux têtes sur des services d'Enrique. Dans le jeu, moi, je suis pas
ils sont pas
tellement convaincus.
Pas dominateurs, hein.
Moi, je suis pas tellement convaincu dans le jeu. Donc, en fait, comme dit Hervé, moi, je sais pas dans quel côté ça va basculer. Là, là on est au bout d'un mois et demi de compétition, à peine. Bah, si dans 3 mois, Monaco est 15e, pourquoi pas? Ou s'ils sont 3e, pourquoi pas? Parce que je sais pas du tout. Là.
Il y a beaucoup de belles voitures sur le rocher dans la principauté, mais c'est très diesel en ce qui concerne le club de foot depuis plusieurs saisons. C'est pas terrible au mois d'août et puis ça part un petit peu mieux après. Là, on a l'impression que c'est.
Alors, en général, l'histoire se répète. À partir de janvier, ça devient la meilleure équipe en France, celle qui accumule le plus de points. Mais là, il faut pas qu'ils oublient qu'il y a une Coupe du Monde quand même cette fois-ci. Donc, on peut pas rééditer chaque fois l'espoir.
Allez, Monaco 7e, Lyon toujours devant, 5e au classement, mais on a l'impression que cette défaite, elle fait mal, elle confirme des doutes qui datent des premiers matchs, en fait, Jean-Philippe Bouchard, c'est-à-dire que Lyon gagnait mais n'arrivait pas à convaincre, et puis il y a eu défaite à Lorient, et puis défaite là contre Monaco.
C'est surtout la défaite précédente qui fait mal, parce que la défaite à Lorient, elle est vraiment vilaine, ils n'ont pas joué, à la limite... Contre Monaco, il joue, il se crée des occasions. Bon, faut se méfier quand Olas est enthousiaste.
C'était 3-1 le score final contre Lorient.
Match en retard.
En match en retard.
Là, finalement, Olas dit tout va bien. En fait, on a tiré beaucoup plus que l'adversaire. On est dominateur et tout ça. Bon, faut se méfier de ce genre de discours. Mais c'est vrai qu'au moins contre Monaco. Ils se font à peu près jeu égal quand même dans le jeu, ça pousse beaucoup à la fin, enfin ils sont pas à la rue. Contre Lorient, c'était un non-match quand même. Donc,
le souci, c'est qu'ils vont recevoir le PSG.
Voilà, donc c'est plus ça qui est inquiétant, et d'enchaîner deux défaites vilaines comme ça, c'est pas bon pour un prétendant, on va dire, au podium. Hein.
Sachant que les doutes étaient nombreux, et notamment... Là, je vous renvoie la balle, hein, à toi, à moi, Hervé Penaud, les doutes concernant... Le coach, Peter Bosch, qui avait réalisé un premier exercice...
Contrasté.
Apocalyptique, j'allais dire, mais...
C'est un peu plus dur. C'est un peu sur les intentions, on voit bien ce qu'il veut faire. Enfin, c'est séduisant. Dans le discours, c'est sympa.
Ah oui, dans le discours. On le voit plus dans le discours sur le terrain.
C'est sur la pratique où ça va plus... Alors, par instant.
Oui, bien sûr.
Par instant, on a une belle phase de jeu. On se dit, ah tiens, c'est ça qu'il veut faire. Mais en fait, c'est fugace. C'est pas reproduit.
La crainte que j'ai à Lyon, c'est qu'ils se soient un peu trompés sur l'analyse de la fin de saison. Je dis toujours, moi, que il faut arriver à analyser lucidement une saison. Et c'est jamais très simple. En fait, ça paraît ridicule comme argument. Mais ils étaient partis sur une idée, Peter Bosch, en premier, évidemment, de dire que Thiago Mendes pouvait tout à fait jouer milieu défensif. Ils n'ont pas pris, dans ces cas-là, un milieu récupérateur de haut niveau, style Youssouf Fofana, mon idole actuelle. C'est-à-dire ce type de joueur capable d'accrocher l'adversaire à droite, à gauche, de faire un pressing énorme. meneur mais de récupérer les balles. Et ils ont pensé que le retour des anciens ferait la différence. Le retour des anciens, bah, comme là, c'est contrairement à Lewandowski.
Tolisso et Lacazette.
Hein. Tolisso et Lacazette, ça prend un petit peu plus de temps. Tolisso, physiquement, n'est pas complètement dans le coup. Donc, il a besoin un peu de temps aussi pour revenir. Mais ça, ça peut tout à fait se comprendre. Le choix de Thiago Mendes en défense centrale, ah, ce n'est pas une aberration. Hein. Si Peter Bosz pense qu'il peut y jouer, et il a quelques aptitudes. Mais le problème, c'est que c'est pas un pur défenseur. Il y a peu de taille dans cette équipe. Alors, c'est vrai qu'ils sont souvent en difficulté. Ils peuvent être en difficulté, même s'ils avaient pris pas ou peu de buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison. Et là, ils se sont retrouvés face à une équipe qui est beaucoup plus forte qu'elle sur coup de pied arrêté. Deux buts de la tête où ils sont venus massacrer les défenseurs et ça manque d'impact physique. Donc j'ai peur. Ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils n'aient pas surtout mal géré cette intersaison. À un moment, ils voulaient Issa Diop en défense centrale, qui aurait été vraiment un complément intéressant de Loukeba pour l'impact, pour la puissance physique, pour le coffre. Aujourd'hui, bon, la chance qu'ils ont contre le Paris Saint-Germain, qui sera le prochain adversaire, c'est que devant, ce n'est pas des monstres non plus physiques. Hein. Ils ont d'autres qualités.
Si je vous suis, Hervé Penneau, là, vous me parlez au-delà de Peter Bosz, de
son analyse à lui, même de son analyse de la saison.
Sur la direction sportive, et ça, ce n'est pas un problème qui date de cet été à Lyon, Dominique Sévrac. C'est-à-dire que depuis, on va dire, même à l'époque de Genesio, quand il finissait sur le podium, ça se passait pas très bien. Il y avait des critiques des supporters. Puis il y a eu Juninho, ça a pas fonctionné. Et puis les entraîneurs se succèdent. Garcia, on arrive à Peter Bosz. Et puis, bon, la porte à Sivigno. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment depuis plusieurs années, depuis même presque le dernier titre, hein, 10 ans, depuis 2012, qu'il n'y a pas de direction sportive, finalement, du côté de Lyon. Alors, je voulais passer la balle à Dominique Sévrac. Et voilà que le coéquipier Bouchard s'empare du ballon. Allez-y, Jean-Pierre.
Parce qu'il y a quand même un truc qui est clair, c'est que le niveau d'exigence à Lyon baisse chaque année. C'est-à-dire qu'à un moment, Puel finit deuxième, c'est un scandale. Voilà,
qui le fait baisser?
La présidence du club. Qui
n'a pas changé, mais il y a eu un changement d'actionnaire.
Voilà, mais il y a un changement d'actionnaire. Pour la première année, Aulas n'est plus comptable, enfin, en partie de ses deniers. Voilà, c'est plus son club, c'est plus lui qui met l'argent quand même. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Et surtout, on a l'impression que finalement, le 6e, 7e, c'est plus grave pour Lyon. Ouais. C'est plus un scandale et on recrute plus les meilleurs non plus, y compris dans les postes stratégiques qui sont la formation.
Mais là, Dominique, c'est vrai qu'on a l'impression que personne n'y croit. Il y a une espèce de résignation.
Je date la déliquescence depuis le départ de Genesio, qui est parti pour des raisons de...
Ça remonte, 2019.
De vindicte populaire. Pour moi, c'est les réseaux sociaux qui ont eu sa peau. Et depuis, j'ai du mal à suivre. Je ne comprends pas que Lille ait été champion de France. Lille n'a pas un plus bel effectif que Lyon à cette époque-là, à ce moment-là. Je ne comprends pas que Lyon n'ait pas régulièrement été le dauphin du Paris Saint-Germain.
L'année Garcia, ça se joue un peu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils font quand même une demi-finale de Ligue des Champions.
Oui, c'est l'année où Lille est champion.
Ils finalisent la Coupe de la Ligue où ils sont battus au tir au but par le PSG. Il n'y a rien d'infamant à ça. Ils sont leaders à l'intersaison et c'est la guerre absolue sur la deuxième partie de saison entre le directeur sportif et l'entraîneur. Et vous pouvez expliquer à tous les entraîneurs, dès qu'ils commencent à avoir des bisbilles entre les uns et les autres, c'est assez compliqué de gérer ça. Didier Deschamps se souvient de son épisode.
Mais ça, c'est bien la preuve qu'il y a un problème de
il y avait un problème. Alors là, il y avait un problème de gouvernance, puisqu'à partir du moment où Garcia ne voulait pas faire jouer, comment il s'appelle, le Brésilien qui
Guimarães.
Le Brésilien qui joue à Monaco, Jean Lucas. Hein, donc qui était parti. Et après, ça a été la guerre permanente. Lopez n'avait pas fait une grosse saison, alors que l'année dernière, il était très bon. Alors comme quoi, des fois, ça change. Et ça s'est joué à peu. Hein, c'est une erreur de Paqueta qui donne la balle à un Lillois.
À l'époque, deuxième, c'est un scandale.
Ils font quatre. Mais c'est vrai.
Ils se battent pour les titres et pourtant ça se passe pas modèle, très bien. Quoi.
Le modèle de Lyon, me semble-t-il, il faut qu'ils soient qualifiés en Ligue des Champions pour que ça marche, pour qu'il y ait un peu d'argent. Et comme ils ont raté la Ligue des Champions, vous avez aujourd'hui le résultat de ça. Mais après, le club est quand même structuré. Jean-Michel Aulas, il n'est pas complètement cramé non plus. On a longtemps dit que c'était le plus grand dirigeant français, le plus influent. Peut-être qu'il a perdu de sa superbe, mais il reste très fort. Donc peut-être que Lyon reviendra dans un an ou deux. Et peut-être que Peter Bosz, parce que là, ils vont rencontrer Paris et Lens, c'est ça ? Bon, peut-être que dans deux matchs, c'est terminé. Peut-être même s'il y a une fessée dimanche au parc, comment il s'appelle, le Groupama Stadium.
Groupama Stadium.
Peut-être que même dès lundi prochain, il ne sera plus là, l'ami Peter. Mais vous savez, on ne peut pas enterrer Lyon. Le Lyon, c'est quand même le club dominant, évidemment, de la décennie 2000. 2010...
Mais on a l'impression quand même qu'avec Peter Bosz, c'est une rencontre qui ne s'est jamais faite. Pour l'instant, en tout cas. Alors, peut-être que ça va redémarrer. Mais l'année dernière, ils étaient déjà en difficulté dans le jeu. Huitième, c'est un désastre pour Lyon. Et c'est vrai,
ça sent le roussi pour lui. Hein. Ça sent le roussi quand même pour lui. Non, c'est vrai. Ça sent le roussi.
Et pourtant, paradoxalement, il est plutôt populaire auprès des supporters.
Un peu moins maintenant, je pense.
Oui, mais l'année dernière, il a bénéficié quand même d'une certaine
mensuétude, on va dire.
Mensuétude de la part du public lyonnais. On va avancer et le programme de Lyon se calque presque sur le programme de Radio Foot. Deux gros budgets, donc Lyon et Monaco, devancés par des formations qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau, encore que Lens, d'abord actuel 3e de Ligue 1, qui réalise de nouveau un excellent début de saison, et même l'un des meilleurs débuts de saison de son histoire, victoire contre 3 vendredi, sans même avoir besoin de titulariser ses prix RFI Marc-Vivien Fouet, puisque Gael Kakuta est resté sur le banc, Seko Fofana n'est entré, lui, qu'à la pause, mais chez les 100 et or, la force n'est pas individuelle. Une victoire 1-0, je le précise, contre 3, c'est vraiment tout un club qui travaille bien avec un entraîneur, un directeur sportif, tout ça c'est extrêmement cohérent du côté de Lens. On peut même perdre des joueurs majeurs cet été, Jean-Philippe Bouchard, et puis continuer à régaler.
C'est une dynamique qui part depuis la montée en Ligue 1, même peut-être l'année d'avant, où ils avaient fait une bonne saison. Et il y a une sorte de continuité qui s'inscrit sur plusieurs années comme ça. Alors, pour revenir au thème d'avant, Lyon est certainement victime d'une crise de croissance. C'est-à-dire, ils ont beaucoup investi dans le stade, dans les infrastructures. Et puis, ils ont du mal à traduire ça sur le plan sportif. Un peu comme Arsenal en Angleterre, qui a décroché après avoir consenti des investissements colossaux. Bon, bah, Lens, on n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'eux, ils montent, ils sont sur leur dynamique. On va voir jusqu'où ça tient. Parce que souvent, pour les clubs, on va dire... Alors, il y a de l'ambition à Lens, mais pour les clubs d'un niveau un petit peu en dessous, un peu moins structuré, c'est quand commence la vraie ambition, quand on commence à rêver à l'Europe ou à la tutoyer, que les ennuis commencent. Donc on verra.
L'année dernière, ils font un très bon début de saison aussi, et puis ils ont un peu plus de mal sur la fin, ça s'essouffle. Donc ils peuvent se retrouver dans le même genre de situation.
Mais au-delà des résultats, il faut rendre hommage à l'entraîneur Francaise. Il y a du jeu, il y a quelque chose d'extrêmement en ballon.
Et comme c'est vous le disiez, sans Jonathan Clauss qui est parti.
Ils peuvent perdre des joueurs majeurs, et puis finalement, on oublie presque qu'ils étaient là.
Prenons deux internationaux africains. Vous avez Doucouré qui part. Alors on s'est dit, oh là, ça va être dur, parce que Seko Fofana avait besoin de lui pour venir un peu équilibrer derrière ses montées permanentes. Et qu'est-ce qu'ils prennent? Abdoul Samed, et Abdoul Samed, Ghanéen, qui n'a pas été sélectionné dans l'équipe du Ghana d'ailleurs, mais j'espère qu'il sera pour la Coupe du Monde avec le Ghana. Et bien Abdel Samed fait le boulot, il est assez énorme. Donc on a l'impression que c'est vrai que c'est une équipe coup de cœur, parce qu'on adore tous Lens. Aussi bien de la signature de Seko Fofana, on avait parlé dans l'émission déjà, la prolongation de contrat, un moment un peu magique comme ça juste après un match. Le public qui est toujours présent, une ambiance incroyable, et puis un jeu formidable. Donc on ne peut pas ne pas aimer Lens, sauf si vous êtes de Lille évidemment.
Et puis un club qui a l'air de rester, on parle souvent de club hors sol après les polémiques de la semaine dernière, l'impression d'un club justement ancré dans ses racines populaires, qui n'a pas changé, qui reste ce foot presque parfois anachronique, presque dans un film de Jean-Jacques Hano des années 80 quoi. Donc évidemment c'est un business, évidemment ils ont un gros budget, évidemment il y a des joueurs très très bien payés.
Il faut expliquer aux auditeurs... qui connaissent pas forcément le nord de la France, c'est une petite ville, non? C'est le stade.
C'est 20 000 ou 30 000 habitants.
Le stade contient plus de personnes qu'il y a d'habitants dans la ville.
Ils ont créé une antenne du Louvre là-bas, mais c'était pas gagné parce que les gens se sont demandé.
On est vraiment dans un club presque à l'anglaise ou à l'allemande, dans ce qu'il représente en termes de popularité pour son ancrage territorial.
Par Gervais Martel pendant des années, et au bout de 30 ans, il a passé la main pour des raisons d'actionnariat. Et après, il y a eu un successeur, M. Mamadov, qui était visiblement un peu farfelu. Ouais.
Mais là aussi, ils ont trouvé une stabilité parce que le président actuel, Ougourian, c'est ça ?
Ougourian,
voilà, qui est président d'un fonds d'investissement, le fonds Amber. Donc, c'est une très grosse puissance financière. Hein, ce président-là est pas hors sol, comme tu dis. Quand il vient au stade, il va parmi les supporters. il est allé toucher un peu le terrain vraiment, quoi. C'est pas juste un investissement financier. Et il a beaucoup d'ambition pour ce club, mais il a conscience des réalités aussi. Et je pense que c'est à Lens, c'est crucial d'être vraiment ancré dans le.
Et mettre en avant le travail, mettre en avant le travail aussi de la cellule de recrutement.
Oui, voilà.
Isolfi, qui fait un travail incroyable. C'est-à-dire qu'il vous trouve des joueurs, parce que bon, prendre Messi, à peu près tout le monde sait à peu près qui est Messi dans le football. Prendre Frankowski, Klose quand il était absolument rien, relancé Openda par exemple en ce moment, Abdoul Samed qui a fait une bonne saison avec Clermont, mais tu sais, on ne savait pas s'il pouvait atteindre ce niveau-là. où il a 10 millions d'euros mais en le vendant à Rennes.
Et Hervé disait on peut pas être supporter, on peut tout le monde aime Lens sauf si on est supporter de Lille. Par exemple, Lille, c'est complètement différent. Olivier Létang et Sylvain Armand, qui sont deux têtes pensantes de Lille, c'est des personnes très prétentieuses, très imbues d'elles-mêmes. Et comme par hasard, le résultat à Lille n'est pas le même. Vraiment, Lens, c'est un club qui reste à sa place et qui est modeste et qui fait bien les choses.
La rivalité du Nord, vue par Dominique, c'est vrai.
C'est comme par hasard, quoi.
Heureusement, nous ne sommes pas sur une antenne
qui
vise le Nord de la France. Sinon, on aurait déclenché un petit incendie dans cette partie de l'Hexagone. Allez, Lorient, pour refermer cette page Ligue 1, Lorient 4e. Alors là, c'est encore plus surprenant que Lens. Hein. Les Merlus qui ont battu Nantes 3-2 ce week-end. Beaucoup de buteurs africains dans cette rencontre. Focus sur le jeune attaquant burkinabé Dango Ouattara, attaquant des Merlus de Lorient. Buteur puis passeur contre Nantes. 3 réalisations, 5 passes décisives pour le gamin de 20 ans depuis le début de la saison. C'est incroyable, on l'avait découvert lors de la dernière CAN au Cameroun. Il avait participé au parcours et à la demi-finale finalement des Burkinabés. Il n'avait pas joué la demi-finale, il avait surtout brillé en 8e passe décisive et puis un but et une expulsion derrière en quart de finale d'Ango Ouattara, le Burkina qui tous les 5-10 ans après Pitrois Pas, après Bertrand Traoré vous sort un petit génie comme ça du pays des hommes intègres et vraiment c'est un joueur à suivre cette saison en Ligue 1 et pour l'avenir.
Ah, là, franchement, ce qu'il a montré sur cette semaine, c'est phénoménal. Alors, je ne sais pas ce qu'il donnera à l'avenir, parce que vous savez, on a des surprises. Hein. Parfois, des grands joueurs, on en a vu tellement sur 2, 3, 4 matchs en France. En tout cas, il va à 200 km/h. Il est capable d'éliminer. J'ai trouvé que sur son deuxième match, le premier match, il a un petit peu moins montré, il a eu moins besoin de le faire. Qualité de passe très intéressante. D'ailleurs, le but qu'il donne lors du match de dimanche, là, sur la victoire contre Nantes, c'est magnifique parce que c'est un bon dosage, mais ça n'a pas été la seule passe qu'il a réussi du match. Donc, il a à peu près tout en magasin. Maintenant, c'est à lui d'être régulier, de pouvoir monter haut. Il me rappelle un petit peu Ismaïl Assar en plus fin. Donc, moi, franchement, j'espère qu'il va pouvoir reproduire ce genre de performance, montrer que c'est pas simplement l'homme de quelques coups, mais ça va être un joueur sur la longueur, parce qu'il a un potentiel phénoménal. De la tête, il monte, mais c'est assez incroyable. Donc, il a tout pour lui. À lui d'en faire bon usage et de travailler régulièrement. Mais j'ai vraiment hâte de voir quelle sera la projection de sa carrière, parce qu'il a vraiment tout pour lui. Et je trouve qu'il est plus fin en plus qu'Ismaïl Assar, qui est capable de trucs, qui était capable.
C'est vrai que physiquement,
de... physiquement il est plus fin, il a un peu plus de finesse, plus d'intelligence du jeu.
Physiquement, l'impression, voilà, pour expliquer la comparaison au niveau du physique.
Même physiquement, même dans le jeu, hein, je voulais dire dans le jeu, parce qu'Ismaïl Assar, qui a tendance lui à utiliser toujours sa puissance, à aller vite, éliminer sur sa vitesse, alors que lui, il a cette capacité visiblement aussi à utiliser la passe et à lever la tête beaucoup plus souvent. Pas toujours, parce que c'est encore un jeune joueur, quand il s'embarque dans 2-3 dribbles, il part sur le 4e, mais à suivre. De très très près, c'est peut-être un des futurs grands espoirs de la Ligue 1 française.
Et Dango Ouattara qui fait partie des 3 joueurs ayant au moins 3 buts et 3 passes décisives à leur compteur en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les 2 autres joueurs peuvent en dire autant étant Neymar et Messi.
Ce sont deux bons joueurs.
Qui joue où?
Il joue
à Lorient.
Il joue dans un club qui a peiné à battre Brest au Parc des Princes 1-0,
breton,
qui aurait même pu
se
voir rejoindre sur un pénalty raté par Islam Slimani. Et puis, on retiendra, vous l'avez entendu tout à l'heure, la verve de Presnel Kimpembe. « Wesh, touche-moi pas, frère ». Voilà comment Kimpembe s'adresse à l'arbitre de la rencontre.
Bah, peut-être c'est de la famille,
peut-être
une
réaction sur cette utilisation de la langue de Molière, mon cher Dominique Sévac.
Non, mais c'est compliqué.
Non, je suis désolé. Faut pas être condescendant.
Non,
et puis
c'est
compliqué. Dans un match,
voilà,
il y a de la tension. Après, il sort sur blessure, Kimpembe en plus.
Ce sont des champions. C'est au bout d'une heure et demie ou d'une heure et quart de jeu. Moi, j'ai pas l'adrénaline qui fait que je suis un sportif de haut niveau avec une animalité, une férocité qui fait que les gars, tous les 3 jours, ils vont au combat. J'ai fait des études que Presnel n'a pas faites, donc voilà, je ne veux pas juger de mon côté en surplomb, en me moquant. Je ne sais pas comment c'est d'être footballeur professionnel et d'avoir cette pression-là.
Et surtout qu'il faudrait
après,
avoir...
sa réaction n'est pas bonne.
Mais voilà, mais mieux vaut ne pas parler comme ça à un arbitre.
Sa réaction n'est pas bonne.
Si on peut donner
déjà,
un conseil.
Moi, j'avais pas le son, mais quand j'ai vu l'image, déjà d'enlever le bras de l'arbitre, je trouve que c'est pas bien.
Il aurait dû prendre un jaune et être expulsé, ça c'est évident. Ça.
Voilà.
Mais juste une petite chose, c'est que la difficulté de juger ce genre de parole, c'est qu'on n'en a pas vu sur d'autres matchs. Donc si ça se trouve, c'est un truc plutôt fréquent. On ne sait pas comment ça se passe. Donc ce sera un peu dur de montrer du doigt.
Les micros sont ouverts tout le temps.
Exactement, tout le temps.
Et l'arbitre est intelligent. peut dire pour le PSG, c'est que le PSG, évidemment, est en tête de la Ligue 1. Ça se passe plutôt bien, même si l'OM résiste, mais ça, si on garde Slimani ça pour demain dans Radio Foot, puisqu'il y aura,
si c'est un teaser.
Il y aura de la Ligue des Champions, mais c'est un teaser. Mais vous voyez, c'est les
c'est appels. Bon, c'est
rappel,
c'est
le jeu émission, collectif est tellement fluide.
Cette émission est un teaser permanent.
Dans Radio Foot, et c'est prometteur pour les 10 dernières minutes qui arrivent. Et on va refermer ce numéro de Radio Foot par un périple loin, très loin de la Ligue 1, de l'Acropole à la Mecque, en passant par les pyramides, un voyage gorgé d'histoire au cœur de différentes civilisations, un voyage qui pourrait être celui de nombreux supporters dans un peu moins de 8 ans. C'est proche, 8 ans. La Grèce, l'Égypte et l'Arabie Saoudite travaillent à une candidature commune pour la Coupe du Monde 2030. Les trois pays travaillent d'arrache-pied, citation du porte-parole du ministère des Sports et de la Jeunesse en Égypte. L'Égypte sera l'un des meilleurs pays organisateurs d'un tel événement sportif, a ajouté ce monsieur, soulignant que son pays avait accueilli de nombreux championnats mondiaux ces trois dernières années. Le pays hôte de la Coupe du Monde 2030 sera connu en 2024, ou plutôt les pays hôtes, hein, puisqu'on a d'autres co-candidatures. Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay d'un côté, Espagne et Portugal de l'autre. Grèce, Égypte, Arabie Saoudite, c'est étonnant, Jean-Philippe Bouchard. Trois pays, ok, mais surtout trois pays répartis sur trois continents. On ne voit pas toujours le lien entre ces trois endroits, ces trois régions. Et est-ce que vous y croyez? Est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire?
Il y en a un qui a l'argent et l'autre qui a les supporters, peut-être. C'est une façon de voir
la passion
choses.
En Grèce, l'argent en Arabie Saoudite, et puis un grand pays de football africain, évidemment, au milieu, l'Égypte.
Non, mais c'est un peu baroque comme candidature. Après, c'est un peu la conséquence du football aujourd'hui, où organiser une Coupe du Monde, c'est devenu tellement cher, tellement compliqué, que plus beaucoup de pays sont capables de le faire, en fait.
Déjà, ils ne peuvent plus le faire tout seuls. Donc là, on voit, il n'y a que des... Pour ces Coupes du Monde à 48, hein, on précise, à partir de 2026.
Donc on se retrouve avec un espèce de gigantisme comme ça qui oblige à être soit sur des très grands pays, soit à plusieurs. Mais effectivement, c'est un petit peu inquiétant quand on voit comment s'est déroulé l'Euro, qui était sur plusieurs pays avec des très longs déplacements en avion. Ça a eu des conséquences, quoi, hein, entre une équipe qui joue par 10 degrés et puis l'autre par 35. Enfin bon, ça crée des inégalités, ça crée c'est un manque de lisibilité.
Juste une petite question, moi, sur le trio là. Alors l'Arabie Saoudite, alors ce qu'il faudra savoir, c'est ils jouent tous au même moment ou pas? Ou alors c'est une Coupe du Monde scindée?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer encore à ce niveau de
parce que la Grèce, que vous jouiez l'été peut-être en Grèce, c'est une possibilité. En Arabie Saoudite, c'est impossible. Donc il va falloir retrouver déjà le mois.
À l'heure de la sobriété énergétique ou de la sobriété tout court, parce que c'est quand même le mois à la mode, c'est complètement hallucinant ce qu'on entend. Et les déclarations du monsieur que vous avez cité, Hugo, c'est totalement fou.
Alors, petit bémol de la FIFA. 2026, c'est en Amérique du Nord, sur le Mexique, le Canada et les États-Unis. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de cri d'orfraie qui sont...
C'est pareil, c'est la même
chose. C'est pas parce que
point de vue bilan énergétique, bilan carbone, c'est pas génial.
D'accord, mais c'est pas parce qu'ils ont fait des bêtises avant qu'il faut continuer, quoi. C'est pas parce que l'arbitre se trompe qu'il faut...
Non, mais ça montre que concrètement, dans les faits, il y a une voie dans laquelle les grandes instances s'engagent.
C'était le deuxième propos, c'était que la FIFA mette dans ses règlements, dans ses organisations, l'interdiction pour plusieurs pays de... Parce que là, on trois pays, trois continents, on va arriver à quoi? À 8 pays sur... Il y a combien de continents? 5, 6? Ça dépend comment on les compte.
5.
Donc, c'est pas possible, quoi. C'est lunaire, c'est hors sol. On a eu une polémique.
On n'avait pas pensé.
On a parlé la semaine dernière de gens hors sol, d'un club hors sol, de char à voile et tout ça, pour une blague de mauvais goût. Mais bon, ils ne sont rien passés, ils n'ont rien fait de mal. Ils sont juste allés à Nantes en avion, quoi. Ils ont tué personne.
Parle du PSG,
quoi.
Voilà. Ceux qui auraient...
J'ai vu des violences à Nice-Cologne, mais bon, ça, pas de réaction de la ministre. J'ai vu un dossier dans SoFoot sur le président de la fédération, pas de réaction de la ministre. Mais bon, quand le char à voile, ça, c'est important. Mais bon, et donc...
Ça, c'est pas faux.
Non, mais c'est quand même hallucinant.
Mais bon, c'est un autre...
C'est le monde qu'on vit. Donc, ouais. Et là, c'est concret, c'est une candidature, c'est trois pays, c'est trois continents. Et vous me dites que ça passe crème parce que...
Ah non, moi, je vous dis pas ça. Je dis juste, et c'est ce qu'expliquait Jean-Philippe Bouchard, vous me confirmerez ou pas, Jean-Philippe, et Hervé, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que veut des Coupes du Monde à 48, mais on veut éventuellement les jouer tous les deux ans.
Mais tout est là. C'est qu'à partir du moment où vous êtes passé à 48, il faut quasiment des co-organisations. Parce que les États-Unis ne l'ont pas pris seul. Enfin, un petit pays qui a un petit peu de moyens, qui est capable d'organiser, qui a à peu près suffisamment de stades et d'hôtels pour avoir 48 équipes. Ils ne le font pas. Ils ont pris le Mexique. Et même si c'est eux qui ont la majeure partie du gâteau.
Mais c'est pas pour ces raisons-là, les États-Unis. C'est aussi pour remplir les stades.
Oui, ouais, mais enfin, toujours est-il que on se rend compte qu'aujourd'hui, organiser une telle Coupe du Monde avec 48 équipes, vous vous rendez compte, c'est un peu la canne. On l'a vécu, la canne, avec un nombre de pays invraisemblable.
Je pense que c'est pas ce que les gens veulent.
Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent des Coupes du Monde. Pourquoi pas avec 48 équipes, ça permet à plus de pays de participer, donc plus de gens d'être au contact avec ces Coupes du Monde. Simplement, le problème, ce n'est pas de savoir si nous, on trouve ça bien ou pas bien, c'est qu'il y a un vote. Voilà, c'est les gens qui votent. Si l'Arabie Saoudite a suffisamment d'argent pour essaimer...
Un vote au sein de la FIFA. Avec un pays membre, une voix, c'est ça
voilà,
le principe.
Voilà. Donc l'Égypte, pourquoi pas récupérer les voix africaines? Parce que peut-être que l'Afrique pourrait se dire, bah tiens, on a eu notre Coupe du Monde en Afrique du Sud. Maintenant, l'Égypte, pourquoi pas faire partie un peu de ce trio? Et puis la Grèce, alors il faut savoir quel est le poids de la Grèce dans l'UEFA par rapport, par exemple, à l'Espagne ou au Portugal. Ça, c'est important. Mais si c'est une fédération qui compte, vous savez, jamais tout est possible.
Parce que vous parlez des gens, Dominique, mais les vieux pays de football, qui sont les pays occidentaux, on va dire, pays européens surtout, c'est pas forcément dans ces endroits qu'on va aller organiser des compétitions, mais ce sont aussi des pays démocratiques où on a un droit de regard quelque part sur l'argent public dépensé. C'est aussi là qu'on parle d'écologie. Mais est-ce que c'est ce public-là qui est visé à travers ce genre de projet? Il y a aussi les Asiatiques, avec beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs, si je puis dire.
Je ne sais pas, Hugo, mais ici, on est réunis par la passion du foot une heure tous les jours. Et moi, je vous dis que le foot, il est en train de mourir à cause de la Super League, à cause de l'organisation sur 3 continents, d'une Coupe du Monde. À cause de ça, je vous dis que le foot, c'est une activité fragile qui est en train d'être...
J'ai l'avis inverse.
Pourri par le libéralisme, et que ça, c'est des raisons de fric. Et parce que c'est tout ça? Parce qu'une Coupe du Monde, c'est très cher à organiser, parce que c'est un barnum incroyable. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut plusieurs pays, parce qu'un seul ne peut pas prendre la charge de toute l'organisation. Le bilan carbone de tout ça est désastreux. Je pense que ça va monter encore plus dans quelques années que maintenant. Donc, je vous dis qu'on est en train peut-être de tuer le foot avec ces super ligues, avec ces organisations. Il n'y a jamais de sobriété dans le foot.
Jean-Philippe Bouchard, une réaction à ce que dit Dominique Sérac. Moi, je me faisais un peu l'avocat du diable, mais on a envie de se ranger à son avis.
Je suis absolument d'accord avec cette analyse. Le seul problème, c'est que les décisions pour l'attribution d'une Coupe du Monde et le processus de vote, tout ça est tellement lent et se fait tellement en amont que forcément, là, on parle de 2030. Hein,
donc, oui, c'est ça.
Oui, sur 24.
Donc, et décisions prises en 2024, dans pas longtemps.
Hein. Mais sauf que les candidatures sont maintenant, en effet. C'est long, c'est lourd, une candidature. Donc, effectivement, ça se décide quasiment 10 ans à l'avance. Et dans 10 ans, peut-être qu'il sera... en effet intolérable pour la planète de transporter des équipes en avion.
C'est un peu possible. La contradiction du Qatar 2022, c'est-à-dire décidé en 2010, c'est encore plus absurde en 2022 d'une certaine manière. Sauf que ça, c'est ce qu'on dit de notre point de vue.
Là, pour le coup, s'il y avait une Coupe du Monde en termes d'énergie qui serait intéressante, c'est bien celle-là, parce que tout le monde est sur la même ligne de métro.
Ça, c'est un peu le point de vue. On adopte un point de vue d'occidentaux et je vous...
Dans des stades climatisés.
Vous envoyez une petite patate chaude pour les dernières secondes de l'émission.
Oui, mais climatisé, visiblement. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne vais pas les rechercher.
Hervé Penaud, qu'est-ce qu'on penserait en Afrique, par exemple, d'une co-candidature Grèce-Égypte, donc pays africain, Arabie Saoudite? Est-ce qu'on regarde la Coupe du Monde au Qatar avec les mêmes yeux qu'en Occident? Vous voyez, c'est compliqué.
Ce qui est sûr, c'est que si vous avez un pays africain qui est en compétition. Alors, c'est vrai que l'Égypte n'a peut-être pas le statut par rapport à d'autres pays, surtout pour l'Afrique subsaharienne. C'est peut-être vécu un petit peu différemment, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas dans ces problématiques-là. Si vous pouvez avoir une Coupe du Monde d'Afrique, tout le monde sera content. C'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec Dominique. Malheureusement, parce que ça va contre mon cœur, j'allais dire, mais je n'ai pas la sensation, si vous voulez, que parce que vous avez des grands matchs avec des grandes équipes le plus souvent possible, ça nuise à la passion du foot. Au contraire, les gens ne veulent plus voir des petits matchs contre le PSG, veulent que des grosses équipes. C'est le foot d'aujourd'hui.
Merci à tous et Radio Foot revient demain. En attendant, excellente soirée sur RFI.